Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct. Alors, au moment où nous nous retrouvons aujourd'hui, j'imagine que vous êtes en pleine préparation de la fête de Noël. Dans quelques jours, vous allez vous retrouver en famille, vous allez partager de bons moments, partager un bon repas, et préalablement, peut-être dans les derniers temps, aujourd'hui et demain, peut-être ce week-end, vous avez fait des cadeaux, vous avez acheté des présents pour vos enfants, vos proches, vos amis, et que sais-je encore. Vous allez peut-être mettre ces cadeaux sous un arbre de Noël, et peut-être qu'à côté de cet arbre, vous allez installer une petite crèche avec l'enfant Jésus et quelques autres personnages issus de la tradition chrétienne. Au-delà de cela, vous irez peut-être faire un tour au marché de Noël pour boire un petit vin chaud, avec modération, acheter quelques cadeaux, quelques souvenirs et passer de bons moments en famille. Eh bien, vous vous dites que vous faites une tradition chrétienne, vous poursuivez un héritage de vos parents, grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents, et ce depuis des siècles. Et en ce sens, vous avez parfaitement raison. Sauf que peut-être que vous ignorez qu'en réalité, il y a de ça 2500 ans, eh bien, des personnes faisaient exactement la même chose que vous. Vous allez dire, mais Ludovic, tu dis n'importe quoi, les Romains n'étaient pas chrétiens, du moins ils n'étaient pas chrétiens avant la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, oui et non, en fait c'est un tout petit peu plus subtil que ceci. Aujourd'hui, nous allons parler d'une célébration romaine qui s'appelle les Saturnales. Alors pour être exact, ce n'est pas une journée unique, ce n'est pas une fête qui a lieu simplement le soir et éventuellement le lendemain, mais c'est une célébration qui va pouvoir s'étendre sur toute une semaine, grosso modo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une célébration qui existait avant Noël et qui, dans une certaine mesure, a inspiré beaucoup des aspects que l'on connaît de Noël. Donc, nous allons partir à la découverte de la fête des Saturnales. Alors, je vous partage un petit document afin d'y voir plus clair. Tout d'abord, une introduction. Il était une fois avant Noël. Eh bien, nous avons plus ou moins brossé le terrain. Première partie, nous allons parler de l'histoire et des origines des Saturnales. Ensuite, en deuxième partie, nous parlerons des rites et des coutumes. Et nous terminerons avec la symbolique des Saturnales. Et bien sûr, comme d'habitude, une conclusion et une petite bibliographie pour ceux d'entre vous qui sont curieux d'en savoir plus. Alors, il était une fois avant Noël. Eh bien, je vous l'expliquais. La célébration de Noël a lieu symboliquement le 24 au soir et le 25. Le 25 étant considéré dans la tradition chrétienne comme le jour de la naissance du Sauveur, la naissance de Jésus-Christ. Et ceci est le cas, depuis le 4e siècle de notre ère. C'est-à-dire qu'avant le 4e siècle, on ne s'intéressait pas vraiment à la date de naissance de Jésus, puisque la célébration la plus importante du christianisme, en réalité, c'est la fête de Pâques, le moment de la résurrection. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser aux considérations religieuses. Nous n'allons pas chercher à savoir si Jésus est réellement Dieu, si la fête de Noël a un sens, et surtout, si le 25 décembre est bien la naissance hypothétique, ou pas du tout, de Jésus. Ceci ne sera pas notre tracas d'aujourd'hui, puisque je l'ai traité dans une autre émission il y a quelque temps, émission qui s'appelait « Les origines de Noël, de Mithra à Jésus, l'énigme du solstice d'hiver ». Donc ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous partons à la découverte des Saturnales. Et pour ce faire, je vais citer Tertullien dans « De Idolatria », où il critique les Saturnales comme une fête païenne. Croyez-vous qu'il soit moins souillé en accroissant le renom et les honneurs d'une idole qu'en célébrant les Minervales en mémoire de Minerve et les Saturnales en l'honneur de Saturne. Fait que les derniers des esclaves sont obligés de célébrer à l'approche des Saturnales. Et oui, car bien avant les considérations du monde chrétien, les païens célébraient, vous vous doutez bien, le solstice d'hiver. Ils célébraient le dernier jour de l'année, enfin le jour où la nuit est la plus longue de l'année, et surtout l'avènement du nouveau soleil, c'est-à-dire les nouveaux jours heureux à venir. Alors évidemment, c'était le cas des Romains dans le cadre des Saturnales, mais c'était également le cas des Celtes, des Germains, des Perses, et même des Incas, des Mayas, des Aztèques, et tous les peuples de la Terre ont célébré le solstice d'hiver, qui est l'avènement du nouveau soleil. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser spécifiquement à la célébration romaine. Alors, première partie, l'histoire des Saturnales. Quelle est tout d'abord l'origine de cette fête? Quelle est sa date? Quelle est sa durée exactement? Et puis, nous allons nous intéresser à deux aspects très intéressants qui est la suspension des normes ordinaires au moment de cette fête dans la société romaine et une curiosité qui est l'inversion des rôles entre les maîtres et les esclaves. Car je ne vous apprendrai rien, dans la société romaine, il y avait des esclaves. Alors, tout d'abord, quelle est l'origine de la fête des Saturnales? Eh bien, cette dernière peut être attestée à partir du 6e siècle avant notre ère. Le culte de Saturne est déjà attesté comme très ancien à Rome, bien qu'il provient en grande partie des Grecs, et il est associé à une divinité agraire et à un temps mythique antérieur à l'ordre civique. Cette ancienneté est explicitement soulignée par Macrobe dans son texte qui s'appelle « Les Saturnales » et qui rattache Saturne à l'idée d'un âge d'or. La première dédicace du temple de Saturne au pied du Capitole est notée en 497 avant notre ère. Donc c'est le repère historique, si vous voulez, pour attester de l'existence de la fête des Saturnales. Chose importante, dans ces premiers temps, la fête était célébrée chaque année le 17 décembre, anniversaire de la dédicace du temple. Donc à l'origine, les Saturnales ne duraient qu'une seule journée. Alors, vous allez me dire, le 17 décembre, ce n'est pas spécifiquement la date du solstice d'hiver. Comprenez que le solstice, nous, on le cible astronomiquement sur un point précis, mais en réalité, c'est une période de transition. On considère en général 3 jours avant, 3 jours après, si vous voyez l'idée. Autre chose, cette divinité Saturne pourrait poser question. Certains d'entre vous pensent peut-être à Cronos, le père terrifiant de Zeus, qui dévorait ses propres enfants. En réalité, il y a aussi l'autre Cronos, c'est-à-dire le dieu du temps. Dieu du temps qui représente donc le cycle cosmogonique de recommencement perpétuel. Et c'est celui-là qui va nous intéresser, mais nous l'étudierons en dernière partie. Pour le moment, continuons avec l'histoire de nos Saturnales. Sous la République, entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère, la fête s'allonge progressivement pour atteindre plusieurs jours, en général 4, 5 et même 6 jours dans certains cas. Finalement, à l'époque impériale, entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, les Saturnales vont durer entre 5 et 7 jours selon les usages et elles deviennent la fête principale et la plus populaire de l'hiver et du calendrier romain. Finalement, entre le 4 et le 5e siècle, donc les derniers moments de l'Empire romain, Macrobe, l'auteur qui est la principale source pour connaître les Saturnales de l'Antiquité, témoigne d'une tradition pleinement constituée et ancienne au point de rapporter que décembre tout entier semblait être devenu une Saturnale. Alors ça c'est important, Macrobe a écrit tout un texte qui s'appelle « Les Saturnales ». Il est important de préciser, l'auteur lui-même est païen. C'est un philosophe, plutôt néo-platonicien, qui est plutôt critique du christianisme, peut-on dire. Alors, continuons notre périple avec ce premier élément qui est intéressant, c'est la suspension des normes ordinaires. Macrobe, notre auteur, insiste sur le caractère exceptionnel de cette période. Les règles habituelles sont temporairement suspendues. Les contraintes sociales s'allègent, les activités sérieuses cessent et une liberté de parole inhabituelle est permise dans la société romaine. Cette suspension n'est ni anachronique, ni subversive. Elle est ritualisée, limitée dans le temps et intégrée à l'ordre romain. Les Saturnales constituent ainsi un temps autre, distinct du temps ordinaire, distinct du quotidien. Alors ça, c'est important parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Lors de la fête des Saturnales, telle qu'on l'étudie, c'est-à-dire qui dure entre 5 et 7 jours, grosso modo, donc comprenez, à partir du 17 décembre jusqu'au 23-24, grosso modo, donc on est en plein dedans en ce moment, les normes sociales s'abaissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les esclaves jouissent d'une certaine liberté de parole, ils peuvent parler comme ils le veulent, ils peuvent s'exprimer directement à leur maître, ils peuvent sortir librement comme ils veulent dans la rue et faire les activités qui leur plaisent. Pareil, dans la bonne société, les gens abandonnent la toge romaine, on s'habille plus simplement, comme tout le monde, il n'y a plus de hiérarchie, que vous soyez plébéien, le peuple ou patricien dans la bonne société, eh bien tout ceci n'existe plus. Pendant une courte période, tout le monde est égaux. Du moins en apparence, puisque tout ceci est très contrôlé. Mais on va arriver à une situation où les esclaves seront servis par les maîtres, les esclaves mangent à table avec les maîtres, ou du moins il y a une pseudo-égalité qui se forme dans cette société. Les activités financières cessent, les contrats importants sont mis en suspens, les systèmes monétaires ne fonctionnent plus. Évidemment, toute l'activité rituelle organique de la cité cesse pendant un temps. Seul le culte dédié à Saturne, donc pour les Saturnales, est permis, avec plusieurs célébrations au milieu, bien entendu, suivant les déités. Chaque jour propose des célébrations particulières envers des divinités pour que la société fonctionne bien, bien entendu. Mais retenez cette idée où on brise les règles sociales et les classes sociales n'existent plus pendant une petite période. Alors, au point, comme je vous le disais, c'est l'inversion des rôles entre les maîtres et les esclaves. L'un des traits les plus marquants décrits par Macrobe est l'inversion symbolique des hiérarchies. Les esclaves participent au repas normalement, parlent librement, peuvent même critiquer leur maître, et les maîtres renoncent provisoirement à leur autorité. Cette inversion n'abolit pas l'ordre social, comprenez-le. Elle le met simplement en scène, en rappelant qu'il n'est pas naturel, mais conventionnel. Une fois la fête achevée, chacun retrouve sa place dans la société. Retenez cette phrase, que l'ordre social et les classes sociales ne sont pas naturelles, mais elles sont une convention. C'est-à-dire que les Romains avaient parfaitement conscience que le fait qu'il y ait une hiérarchie entre les individus n'était fondamentalement pas vraiment normal, mais bon, c'est quand même bien pratique, alors du coup, ils le conservent. Mais pour laisser un petit peu de, lâcher un peu de lest, détendre la corde, si l'on peut dire, eh bien, pendant quelques jours, toutes ces normes disparaissent. Alors, évidemment, vous vous doutez, c'est l'occasion de quelques orgies et de quelques pratiques licencieuses. Évidemment, entre esclaves, maîtres et entre à peu près tout le monde, après tout, nous sommes dans la société romaine, des gens qui savaient s'amuser, d'une certaine façon. Alors, maintenant que nous avons vu un peu les origines, les contours, nous allons nous intéresser à ce que l'on faisait concrètement. Puisque là, à ce stade, vous pourriez me dire, mais quel est donc le rapport avec Noël, l'arbre de Noël, le Père Noël, les cadeaux, les marchés de Noël, la naissance de Jésus? Quel serait donc le rapport entre les Saturnales, à part la date, ou du moins la période temporelle? Eh bien, vous allez voir que les rapports sont en fait très, 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 très inspirés. Nous poursuivons donc avec la deuxième partie, les rites et les coutumes. Le Convivium Saturnalis, ou le fameux banquet, les Sigillaria, ou les fameux marchés où l'on achète des bricoles, les Saturnalia et les Sigillaretia, qui sont des petits cadeaux, des figurines et tout un tas d'objets divers, le Rex Convivi, qui est l'élection du roi du banquet. Alors commençons avec les banquets. Le Convivium Saturnalis est avant tout un banquet privé, tenu dans la domus, c'est-à-dire la maison. Le repas n'est pas exceptionnel par sa forme, du moins par son contenu, mais par son usage rituel. Il est plus long, plus libre et plus égalitaire. Durant les Saturnales, les esclaves participent au repas, parfois mangent avec les maîtres, parfois sont servis par eux. La parole est libre et sans crainte de sanction. Donc, vous imaginez les banquets dans la maison. Toute l'année, les esclaves font le service à Dominus et Domina et leurs enfants. Et là, tout d'un coup, tout le monde vient à table et Domina va prendre la carafe de vin, si l'on peut dire, et servir les esclaves, les enfants, les siens et ceux des esclaves et tout le monde. Alors, ces repas vont avoir lieu le midi, vont avoir lieu le soir, et ce, pendant 7 jours. Donc, on s'amuse. Toutes les familles font ça, mais il y a également des banquets publics, devant les temples, dans le forum romain. On célèbre des banquets rituels envers les divinités. Mais les règles sont les mêmes qu'à la maison, c'est-à-dire que les esclaves sont tout aussi libres et peuvent y participer. C'est quasiment une des seules occasions de l'année où ils peuvent faire ça, vous vous doutez. Donc, évidemment, nos célèbres repas de Noël où on se retrouve en famille, eh bien, en soi, on faisait déjà ça à Rome, on se regroupait autour de la table, autour d'un grand banquet pour célébrer les instants. Alors, évidemment, je ne sais pas aujourd'hui, un contexte plus familial dans le repas de Noël, mais à l'époque, c'était aussi un cadre familial, mais vous comprenez qu'en fait, les esclaves, mais ils vivent toute l'année avec leur maître. Alors, ils sont dans des pièces séparées, ils ne vivent pas aux mêmes étages, etc., mais ils vivent toute l'année dans le même endroit. Et donc, eh bien, là, en fait, toute la maisonnée se réunit autour de la table pour cet événement sur plusieurs jours. Alors, poursuivons avec une autre curiosité qui est les Sigillaria. Les marchés de Noël antiques d'une certaine façon. Alors, c'est quoi? Les Sigillaria désignent à la fois une période spécifique des Saturnales, habituellement le dernier jour, le 23 décembre, et les objets qui y sont vendus, les Sigilla. Les sources, notamment Macrobe, mais pas uniquement, évoquent l'existence de zones urbaines spécialisées, notamment la rue des Sigillaires, où l'on vend des figurines en terre cuite, des poupées, des petites statues, des objets symboliques ou ludiques. Il s'agit bien d'un marché temporaire installé dans la rue, fréquenté par toutes les classes sociales. Les objets sont volontairement modestes, leur valeur est symbolique et non économique. Alors aujourd'hui, quand j'entends, et moi le premier, que je suis très critique envers les marchés de Noël, en disant « oui, les marchés de Noël, c'est une perversion, c'est devenu une fête commerciale, on vend tout un tas de babioles, etc. » Oui, mais en fait, on l'a toujours fait. On l'a toujours fait, même à Rome. Et oui, à Rome, faites comme chez les Romains, eh bien, nos marchés de Noël sont les héritiers directs des Sigillariens. Alors comment ça se passe plus précisément? Eh bien, à Rome, il y avait des endroits où on installait un marché provisoire, tout simplement. Et ce marché provisoire était dédié, évidemment, aux fêtes des Saturnales. Et on vendait des objets en lien avec les Saturnales, que ce soit au niveau des repas, mais que ce soit au niveau des cadeaux également. Alors, il y avait une rue qui était appelée la rue des Sigillaires, où en fait, c'est tous les vendeurs spécifiques liés à cette célébration qui s'installaient là. Et donc, tout le monde fréquentait cette rue qui était bondée, forcément, pour s'acheter tous les petits objets qui allait être utile et qu'on allait pouvoir offrir en cadeau pour apporter à la maison, en souvenir, etc. Tout ça. Donc oui, les marchés de Noël commerciaux du XXIe siècle sont directement inspirés des pratiques antiques. Et en fait, ça a toujours existé dans toutes les sociétés. Nous ne sommes pas une exception. Maintenant, allons un tout petit peu plus loin avec les Saturnalia ou les Sigillaratia. Les cadeaux de Noël sont-ils une nouveauté du XIXe et XXe siècle? Absolument pas. L'échange de cadeaux pendant les Saturnales est généralisé, mais codifié. Les présents sont offerts entre amis, entre membres de la famille, les maîtres vers les esclaves et aux enfants de la maison, bien entendu. Les cadeaux sont simples, ludiques, symboliques. Ce sont des figurines, des noix, des fruits, des lampes, des bougies et tout un tas d'autres choses, en général assez modestes. Évidemment, les gens plus fortunés vont prendre des objets en bronze, en or et autre chose, vous vous doutez bien. La classe sociale ne disparaît pas totalement. Ils ne sont ni des offrandes religieuses, c'est important au sens strict, ni des dons ostentatoires. Leur fonction est sociale, renforcer le lien symbolique, rappeler l'abondance de l'âge d'or, rituel, rappeler à la logique du renversement et du pardon. Alors, les Sigillaratia, ce sont des objets très différents entre eux, hein, c'est un terme générique. Mais néanmoins, il y a quand même quelques petites choses qui vont dissocier. Exemple, des parents vont pouvoir offrir un petit cheval de bois à leurs enfants, qui va en fait servir de jouet, tout simplement. Ils vont pouvoir leur offrir un anneau. Par exemple, si c'est une jeune femme qui arrive en âge de puberté, les parents vont peut-être lui offrir un anneau qui est symbole aussi de rite de passage pour sa future vie de femme. On va pouvoir offrir une bougie pour un cadeau ludique différent, une lampe, tout un tas d'autres choses. Mais l'élément qui va ressortir le plus souvent, ce sont les Sigillaratia, c'est des petites figurines. Alors ces petites figurines ne seront pas sans vous rappeler les petits santons de Provence. Puisqu'aujourd'hui, tous les gens qui crient à la crèche, on dit « oui, les crèches c'est très mal parce que la laïcité, etc., tout ce que vous voulez », bah en fait, les crèches, on utilise des santons qui représentent les personnages de la tradition biblique. Mais dans l'absolu, bah, les Romains utilisaient des figures païennes, en fait. C'était la même chose. Donc on a toujours fait des sortes de crèches. Je m'explique. Dans la maison, il y avait un autel. Et dans cet autel, on disposait des éléments pour marquer les esprits protecteurs, les esprits tutélaires qui allaient devoir protéger la maison. On appelle ça des lares. Et donc, il était de coutume qu'on aille au marché, au Sigillaria, qu'on aille acheter une figurine, un lard, et ce lard, on allait le disposer dans l'autel domestique de la maison afin d'assurer de bonnes énergies, de protéger la maison, d'éloigner les forces négatives et tout un tas d'autres choses. Et évidemment, vu que plusieurs personnes font des cadeaux, vous avez compris, dans l'hôtel familial, on va pouvoir y disposer plusieurs choses, comme par exemple la déesse Minerve, comme par exemple du Hermès, comme par exemple Apollon et tout un tas d'autres figurines qui vont représenter des scènes mythologiques pour apporter l'abondance, la fertilité, la protection, le bonheur et tout ce que vous avez envie, bien entendu. Donc, ce Sigillaratia, ces petites figurines, eh bien, les santons n'ont rien inventé. En fait, on continue une tradition, sauf que par exemple, si vous achetez un petit santon et que vous mettez, je ne sais pas, l'enfant Jésus, par exemple, et que avant vous auriez mis Mitra, bah, l'idée, c'est un petit peu la même, en fait. Voyez l'idée. Si vous mettez des petites figurines pour représenter, par exemple, la Vierge Marie, eh bien, c'est un peu la même chose que si vous mettiez une petite Sigillaria de la déesse Déméter ou de Cérès, qui représente la Magna Mater, la grande déesse donneuse de vie. Mais l'idée est toujours là. Donc, si vous avez envie de faire une crèche moderne avec des figures païennes, bah en fait, ça marche autant, si vous voyez l'idée. Alors, du coup, petite digression pour les passionnés d'occultisme, peut-être que vous avez déjà rencontré le mot sigil. Un sigil, en occultisme, c'est quand on fait un petit glyphe, une petite représentation graphique sur une feuille, sur un parchemin, sur un bout de bois, sur un caillou, sur une plaque de métal, dans le but d'entrer en contact avec une entité, de créer un rituel d'incantation pour appeler une force extérieure, une entité, un ange, un démon, un dieu païen, tout ce que vous voulez. Et ça sert aussi à canaliser une forme pensée pour lui donner corps, créer un égrégore, si vous voulez. Donc, le sigil est un usage en magie opérative chez les occultistes. Eh bien, ça vient directement des sigillaratia romains. Parce que la figurine du dieu lard, du lard, de l'esprit tutélaire, lard, L-A-R-S, hein, le lard, l'esprit tutélaire, ou une figurine de Hermès, Athéna ou qui voulait, c'est pareil. L'idée, c'est que la figurine entretient un lien symbolique, un lien magique avec la divinité ou l'esprit. Donc, le sigil des occultistes partage la même fonction, la même idée que ces petites figurines qui servent de lien fluidique, de lien magique avec les entités de l'invisible, païennes, chrétiennes, démoniaques ou que sais-je encore. Alors, poursuivons l'aventure avec une autre curiosité. C'est le Rex Convivi, l'élection d'un roi du banquet. Le Rex Convivi est élu ou tiré au sort au début du banquet. Il ne détient aucun pouvoir réel, bien entendu, mais une autorité ludique et temporaire lors du banquet. Et comme vous avez compris, vu qu'il y a plein de banquets pendant 7 jours, eh bien, il y aura plusieurs rois du banquet, bien entendu. Alors, le rôle de ce Rex Convivi consiste à fixer les règles du repas, imposer des défis ou des jeux, décider des tours de boissons et distribuer la parole. Sous son autorité se développent des jeux de hasard, de dés, des osselets, des devinettes, des plaisanteries, des bons mots et parfois grivois. Macrobe consacre une large place à ses propos légers, montrant qu'ils font partie intégrante du rite. Le rire, la parole, libre et les jeux sont ritualisés, mais non anarchiques. Attention. Alors, dans ces banquets, le roi du banquet fixe les règles. Aujourd'hui, quand vous vous retrouvez, vous, pour un repas de Noël, eh bien, vous passez un bon moment. Et puis, vous avez des discussions, puis des disputes, et puis tout ce qui va bien. Vous commencez votre apéritif, des petites toasts, vous prenez un petit crément, une petite blanquette, une soupe en juine, ou que sais-je encore, quelques vins à table, un petit digestif à la fin, et tout un tas. Vous passez un bon moment. Vous allez peut-être vous éloigner de la table quelques instants pour déboutonner votre veste, et peut-être jouer un peu, faire un jeu de cartes, je ne sais pas, n'importe quel jeu, faire des activités ludiques. Des actions vérités, je ne sais pas. Eh bien, en fait, les Romains faisaient la même chose. Le roi du banquet, c'est lui qui fixait les règles. Il donnait les tours de parole avec une thématique et on échangeait des questions philosophiques ou des sujets beaucoup plus légers, bien entendu, avec quelques propos grivois. Puisqu'on parlait librement, sans sanction, et tout d'un coup, les esclaves pouvaient, je vous le rappelle, s'exprimer, même critiquer leur maître. Donc, parole libérée, mais dirigée par un roi des banquets. Donc on faisait des jeux hasards, des devinettes, on jouait alors pas aux cartes à l'époque, mais tous les jeux typiques de la période romaine. Évidemment, on buvait un petit peu aussi dans ces banquets, et donc, suivant les jeux, on pouvait mettre des gages, faire des choses pour inciter à la boisson. Et tout ça pouvait évidemment, nous sommes à Rome, finir dans quelques orgies licencieuses. Oui, c'est possible. Alors je ne sais pas si vous faites ça en repas de famille, cela vous regarde bien entendu. Mais néanmoins, au-delà des pratiques licencieuses des Romains, il y a peut-être quelques idées à tirer. Si vous n'avez pas de chance et que vous vous ennuyez profondément dans vos repas de famille, eh bien, vous avez peut-être quelques idées à tirer des Saturnales pour élire un roi du banquet pendant quelques instants et peut-être décider de quelques jeux, quelques activités, quelques festivités, libérer la parole, donner des sujets de conversation pour donner vie à vos banquets, tels les Saturnales de l'Antiquité. Alors, maintenant, nous allons poursuivre avec la dernière partie. Et puis, je répondrai à quelques-unes de vos questions dernière partie d'émission. Hop, est-ce que mon document fonctionne ? Voilà, mon document fonctionne. Je vais juste partager dans le chat le lien de souscription YouTube si vous avez le désir de soutenir la Web TV, car je vous rappelle que je réponds uniquement aux souscripteurs de la Web TV, ceux qui financent mon activité, mes mécènes, mes patrons, tout simplement, et un grand merci à eux tous. Du coup, je me perds dans mes explications, donc je vais aller chercher le lien, je le poste quelques petites fois dans le chat, comme ça, si vous avez envie de poser une question, vous pouvez vous inscrire, si ce n'est pas le cas, et poser une question, puisque votre pseudonyme apparaîtra en vert ou en bleu, si vous êtes modérateur, bien entendu, et je vais y répondre après la troisième partie. Pour le moment, intéressons-nous à la symbolique, des Saturnales. Tout d'abord, l'âge d'or, rétablir le temps primordial, la figure de Saturne ou Chronos, le solstice et le cycle du temps. On va s'intéresser à la date du 25 décembre avec la fête de Dies Natalis Solis Invicti. Et finalement, nous poserons la question des Saturnales à la naissance de Jésus. Comment tout ceci s'est-il passé? Commençons avec l'âge d'or. La finalité profonde des Saturnales est de réactualiser symboliquement l'âge d'or, sans prétendre le restaurer réellement. En rejouant un monde sans hiérarchie, sans contrainte, la société romaine se souvient d'un temps mythique tout en acceptant son caractère irréversible. La fête fonctionne comme une mémoire rituelle de l'origine ou, si vous préférez, le mythe de l'éternel retour tel que expliqué par Mircea Eliade. Dans la mythologie et la religion romaine surtout, il y a un grand emprunt à la mythologie et la religion des Grecs et aussi des Étrusques. Et dans tous ces systèmes religieux du bassin méditerranéen, il y a l'idée que dans les temps primordiaux, bien avant l'histoire connue, il y avait, excusez-moi, j'avais une poussière dans l'œil, hop là, eh bien, dans les temps anciens, il y avait un âge d'or où les dieux et les hommes marchaient ensemble et ils partageaient la même nature. Mais dû à différents éléments, cet âge d'or, a été détruit. Alors, dans la tradition grecque, c'est au moment où Pandore arrive sur Terre et apporte tous les maux de l'humanité, notamment la mortalité. Donc, en gros, il y a l'idée que dans les temps très anciens, les hommes vivaient en harmonie avec la nature, en harmonie avec les dieux, sans aucune forme de problème, dans une sorte de jardin d'Éden, si je caricaturais un petit peu. Et c'était du temps de Chronos, le père de Zeus. Donc, du coup, les Saturnales, c'est le moment où on revit symboliquement l'âge d'or des temps mythiques, on revient à ce jardin d'Éden des temps anciens, sans souffrance, sans problème, sans difficulté. Mais évidemment, on a bien conscience que c'est fini, alors ça ne dure que quelques jours. Et après, on revient à la normalité du temps humain, puisque cet âge d'or est définitivement perdu, mais on en garde la mémoire et on célèbre ces jours heureux des temps passés, tout simplement. Et évidemment, la figure tutélaire de ce symbole, c'est Saturne ou Chronos au sens dieu du temps. C'est le solstice et le cycle du temps. Saturne est une divinité étroitement liée au temps et à son cycle. Dans la tradition romaine, il incarne un âge ancien du monde, antérieur à l'ordre civique, associé à l'abondance et à la stabilité. Les Saturnales s'inscrivent dans cette logique cyclique. Célébrée à l'approche du solstice d'hiver, elle marque un moment de bascule du temps annuel lorsque la lumière cesse de décroître. Sans être à l'origine une fête strictement solsticiale, les Saturnales prennent progressivement une dimension cosmique, rappelant que le temps n'est pas linéaire, mais rythmé par des phases de déclin et de renouveau placées sous l'autorité symbolique de Saturne. Alors, Saturne, en tant que dieu du temps, n'est pas une figure maléfique, au sens le Chronos qui dévore ses enfants. Ce n'est pas tout à fait la même figure. Même si la confusion est facile à faire, ce n'est pas la même idée. Alors, j'en parle dans d'autres émissions sur la cosmogonie, là on n'aura pas le temps. Mais Chronos, autant ce dieu du temps, est celui qui régit le cycle perpétuel. Or, eh bien, je ne vous apprendrai rien que le soleil se lève chaque matin, se couche chaque soir, la Terre fait un tour du soleil en une année, les mois sont en cycle perpétuel, les saisons, printemps, été, automne, hiver, et tout ceci recommence perpétuellement dans un cycle perpétuel. Chronos symbolise ce cycle perpétuel. Et donc, au moment du solstice d'hiver, c'est le moment où les jours, où la lumière, symboliquement, est la plus faible. Donc, c'est la fin du cycle au sens de la puissance de la lumière. Mais évidemment, ça annonce le retour d'un nouveau cycle. Donc, en célébrant les Saturnales, c'est la fin du temps et le début du recommencement du temps. Et pourquoi c'est les Saturnales? Eh bien, parce que dans la mythologie gréco-romaine, toujours ce mélange entre Saturne, dieu du temps, et Saturne, le Chronos, père de Zeus, toujours confusion un petit peu entre les deux, Chronos ou Saturne, c'est l'ancien roi, celui de l'âge d'or. Après, celui qui prend le pouvoir, c'est Zeus, qui établit l'ordre cosmogonique tel qu'on l'entend, la structure de l'univers tel qu'on l'entend. Donc, on célèbre le temps mythique de Saturne, mais on célèbre aussi la fin du règne du vieux roi, qui sera remplacé par le nouveau roi, le nouveau soleil, à venir. Donc, voyez, toute la cyclologie du retour perpétuel, de la fin du vieux roi, la naissance du nouveau, la fin des ténèbres, le retour de la lumière, le solstice d'hiver, tout simplement. Alors, évidemment, ces saturnales vont se complexifier avec le temps, avec un ajout qui va apparaître à peu près au 3e siècle de notre ère. Cette fameuse date du 25 décembre, dit Natalis Solis Invicti pour les Romains. Comment ça se passe déjà? Alors, petite précision très importante, vous pourriez me dire, oui, mais le 25 décembre, ça tombe pas spécifiquement sur le solstice d'hiver à proprement parler, puisque le solstice d'hiver, c'est plutôt le 21 ou le 22 habituellement. Et oui, sauf que, au moment où on établit cette fête, sous le calendrier julien, en fait, le solstice d'hiver, ça tombe le 25. Et 1500 ans plus tard, quand on change de calendrier et qu'on passe au calendrier grégorien, eh bien, les modifications de calendrier font que le 25 décembre tombe 3 jours après le solstice d'hiver. Voilà pourquoi la naissance de Jésus n'est pas célébrée le jour du solstice d'hiver, mais 3 jours après, c'est dû au méandre des histoires de calendrier, tout simplement. Puisqu'au moment où la fête de Jésus a été instaurée au 25 décembre, eh bien, le 25 décembre, c'était bel et bien le jour du solstice d'hiver. Mais nous ne sommes pas encore rendus à Jésus. Pour l'instant, nous sommes à Mitra. Alors, l'instauration du Dies Natalis Solis Invicti au 25 décembre a lieu sous l'empereur Aurélien, qui lui-même a été empereur entre 270 et 275 après Jésus-Christ. Il s'inscrit dans la continuité du cycle festif hivernal déjà occupé par les Saturnales. Cette fête solaire ne remplace pas les Saturnales, elle les prolonge et va les clôturer, en réaffirmant un principe d'ordre et de victoire cosmique après la période de licence saturnale. Sur le plan symbolique, le soleil invaincu incarne la victoire de la lumière renaissante sur les ténèbres hivernales, marquant le retour progressif d'un nouveau cycle solaire. Alors, la fête du soleil invaincu s'inscrit dans un cadre religieux qui s'appelle le Mithraïsme. On y célèbre le dieu Mitra, qui a des origines indo-iraniennes, qui, du Proche-Orient, a conquis les Romains, et s'est répandu dans tout l'Empire romain, et donc Mitra est devenu une sorte de dieu sauveur, qui symboliquement est né le 25 décembre, ce n'est pas une date choisie au hasard, c'est parce que ça colle avec le solstice d'hiver, et donc, dans la tradition, Mitra est un dieu qui est né d'une pierre vierge frappée par la foudre. Donc Mitra, né de la terre, faut comprendre cette idée-là, de la magna mater, donc de la terre vierge, vous trouvez l'idée, et donc du coup il prend naissance, et il est le dieu sauveur, qui va devoir tuer symboliquement le taureau, tauroctone, taureau de taureau, et en tuant le taureau, c'est un acte sacrificiel où il répand le sang du taureau sur terre, ce qui régénère le monde. Pourquoi ? Parce que le monde est dans le chaos, Mitra doit régénérer le monde pour rapporter la lumière, tout simplement. Donc c'est un dieu sauveur qui régénère le monde tous les ans avec sa naissance et son acte de mise à mort du taureau qui a lieu le 25 décembre. Enfin, sa naissance a lieu le 25 décembre, le sacrifice du taureau un petit peu plus tard, quelques mois plus tard, en l'occurrence. Donc, Mitra va donner naissance à un culte à mystère qui s'appelle le culte de Mitra, mais à une religion plus largement qui s'appelle le mithraïsme, avec le culte du soleil invaincu qui se régénère ou qui reprend naissance tous les 25 décembre. Évidemment, à l'époque, il y avait une religion concurrente. Et cette religion concurrente, vous la connaissez tous, c'est le christianisme. Alors, comment se passe cette histoire? C'est très intéressant. Dans l'Empire romain, la plupart des gens étaient païens. Mais une frange de la société, plutôt dans les élites, s'était convertie au christianisme. Et une frange de la société, une autre, s'était convertie plutôt au mithraïsme. Et puis, au 3e siècle, vers l'an 300, un petit peu après, il va y avoir un conflit entre deux empereurs qui se querellent. D'un côté, l'empereur Constantin, et de l'autre côté, l'empereur Maxence. Ces deux empereurs ont du pouvoir, Constantin règne en Orient, Constantinople, qu'il va renommer de son nom, et de l'autre côté, plutôt en Occident, plutôt vers la Gaule et Rome, eh bien, il y avait Maxence. Maxence, pour trouver de l'appui politique, va se faire soutenir par le clergé de Mitra. Et puis Constantin, lui, va se faire soutenir par le clergé chrétien. Il va y avoir une bataille, c'est la bataille du pont Milvius, et c'est Constantin qui va gagner la guerre. Vu que c'est Constantin qui va gagner la guerre, il va récompenser ses bienfaiteurs, il va récompenser les chrétiens qui vont pouvoir prendre de la place dans l'Empire. Ce n'est pas encore une religion d'État à ce stade, mais les chrétiens sont, ont le vent en poupe. Alors c'est ainsi que, voulant combattre l'autre religion concurrente et qui a perdu la bataille, si je puis dire, le mithraïsme, eh bien, ils vont se dire « Ah, c'est intéressant, Mitra, il est né le 25 décembre. Oui, ben, Jésus aussi, il est né le 25 décembre. Hein, hein, ben oui, parce qu'en fait, il ne faut pas célébrer Mitra, il faut célébrer Jésus le 25 décembre. » Alors, comment se passe cette histoire? La fixation de la naissance de Jésus au 25 décembre est attestée à Rome au milieu du 4e siècle de notre ère, vers l'an 336 après Jésus-Christ, donc après que Constantin ait battu son rival, et au moment du concile de Nicée à peu près. Ça reprend la structure en fait du calendrier païen plus ancien. Le christianisme ne conserve évidemment ni Saturne, ni l'âge d'or, ni la licence rituelle, mais les s'inscrit dans un temps déjà sacralisé, en lui donnant un sens radicalement différent pour correspondre à la théologie et aux dogmes chrétiens, bien entendu. On observe ici une superposition afin de remplacer et supprimer la fête païenne des Saturnales et du sol Invictus des païens. Alors, il ne s'agit pas de dire « les chrétiens ont copié les païens, c'est des méchants », il ne s'agit pas du tout de dire ça. Il s'agit de dire que si on prend et on s'intéresse quelques instants à la symbolique de Jésus, en précisant qu'on ne connaît absolument pas la date de naissance du personnage, hein, historique, c'est très compliqué historiquement Jésus, on n'a pas beaucoup de sources, vous vous doutez. Bon, voilà. Donc, du coup, on ne connaît pas trop sa date de naissance. Mais, en revanche, on voit sa symbolique. Et la symbolique de Jésus, c'est quoi? Il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est présenté dans la tradition chrétienne comme étant le Fils de Dieu et Dieu lui-même incarné sur terre, donc le Sauveur, le Messie, celui qui apporte sur terre la lumière. Si on veut illustrer l'idée de la naissance de la lumière qui vient sauver le monde des ténèbres, objectivement parlant, à quelle date vous l'auriez posé? Dans un environnement où tous les païens célèbrent ce type d'événement au 25 décembre, que tous les adeptes de Mitra le célèbrent au 25 décembre, que tout un tas d'autres cultes solaires le célèbrent au 25 décembre, mais pourquoi les chrétiens n'auraient pas fait exactement la même chose que tous les autres? Qui a copié qui? Mais tout le monde a copié tout le monde. C'est ontologique, cette histoire-là. On célèbre la naissance du nouveau soleil, du sauveur, de la lumière du monde, au 25 décembre. Alors Jésus a tout à fait naturellement pris sa place au 25 décembre, tel Mitra, Dionysos et d'autres figures divines des temps passés. Tout le calendrier chrétien est basé sur les anciennes fêtes païennes qui l'ont précédé. C'est tout à fait normal. Alors, que peut-on dire pour conclure sur ce sujet des Saturnales? Eh bien, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, que vous soyez sans religion, que vous soyez tout ce qui vous fera plaisir suivant vos envies, vous pouvez célébrer Noël sans aucune once de difficulté. Quelle que soit votre culture, quelle que soit votre tradition, quelles que soient vos religions et vos croyances, vous pouvez profiter de cet instant pour célébrer une tradition multimillénaire qui célèbre l'arrivée de la lumière. Vous pouvez profiter de cet instant pour vous réunir, passer un bon moment, jouer à des jeux, parler, faire tout ce qui vous fera plaisir, vous offrir des présents pour marquer votre affection, aller vous promener ensemble pour faire vos courses si vous en avez envie, et tout simplement célébrer une tradition humaine qui perdure depuis la nuit des temps. Oui, dans un cadre chrétien, ça prend le nom de Noël et la crèche est habillée de figures bibliques au lieu de dieux païens romains. Oui, l'arbre de Noël, bah, lui, il n'a rien de chrétien. Ça vient des traditions germanico-scandinaves, de l'arbre Irminsul, symbolique de l'arbre-monde. Donc déjà, rien que dans la fête de Noël, l'arbre lui-même, il n'a rien de chrétien. C'est clairement une tradition païenne qui a été mise là. Le Père Noël, n'en parlons pas, il est inspiré de toute une composition de personnages, en passant par le dieu Odin qui offrait des cadeaux aux enfants, passant par les différents Saint-Nicolas divers, par tout un tas de dieux antiques voyageurs qui venaient offrir des présents à des moments de l'année. Le Père Noël, rien de chrétien non plus. Donc, la fête de Noël porte en elle un héritage de tout un tas d'éléments culturels divers des temps passés, et notamment des temps païens de l'Europe, romains, celtiques, germaniques, scandinaves, etc., etc. Noël est un ensemble d'héritages condensés sous cette fête qui certes prend une apparence chrétienne, mais qui a en réalité une symbolique extrêmement riche qui la compose. Le repas, bla, tout ce que vous voulez, tout ceci a déjà été fait avant, a juste été continué dans un cadre culturel qui lui-même est évolutif, mais la fête reste. Voilà donc tout ce que je voulais vous dire sur les anciennes Saturnales romaines, que nous poursuivons joyeusement sous le nom de Noël. De là, je vais voir si vous avez quelques questions pour terminer cette soirée. Alors, je vais dans le chat et je vois Rachel. Rachel, est-ce que nos traditions de Noël ne viennent que des Saturnales ou y a-t-il des rituels d'autres cultures comme les Celtes ou les Germains ? Non, les Noël ne vient pas que des Saturnales, bien entendu. Ça vient d'ailleurs, la principale inspiration de Noël n'est pas les Saturnales. La principale inspiration de Noël est tout d'abord le culte du Sol Invictus pour la naissance de Jésus, bien entendu. Mais Noël est une fête de composition. Donc la naissance de Jésus, la nativité, ça vient du mithraïsme. L'arbre, ça vient des traditions germanico-scandinaves de l'Irminsul ou Yggdrasil, l'arbre monde, ou le frêne sacré, ou tout ce que vous voulez. L'idée de la crèche, ça vient beaucoup plus des Saturnales pour le coup, avec les Sigillaria et Sigillaratia, clairement, les cadeaux avec. Tout ce qui est l'aspect un petit peu fête ludique, tout ce qui est ludique, offrande, etc., ça vient plutôt des Romains, en l'occurrence. Ce qui est normal, puisque le pouvoir romain ou la structure de la société romaine ont formé la base de tous ces territoires à un moment donné. Ensuite, les inspirations celtiques, oui, probablement, puisque celles-ci, en fait, se sont mélangées tout à fait naturellement. C'est-à-dire que les Celtes avec Yule, pour le solstice d'hiver, Yule, c'est une fête qui dure 7 jours. Donc, c'est très proche, en fait, dans la construction que les Saturnales, on célèbre la mort du vieux roi, on célèbre la naissance du nouveau soleil, hein, donc la régénération Kernunos, un petit peu, pour reprendre des termes assez vastes, puisqu'on n'a pas forcément les termes exacts de l'époque, mais c'est l'Oug, si vous préférez l'Oug, le dieu de la lumière, qui revient à la vie et qui répand sa lumière dans le monde. Donc, Noël, c'est pas inspiré d'une fête en particulier, c'est plutôt un héritage multiple qui prend un vêtement chrétien et qui a gardé des inspirations diverses, en fait. Mais on ne peut pas illustrer une fête spécifique qui a inspiré Noël, bien entendu. Alors, eh bien voilà, tu étais la seule membre présente sur le chat, du moins qui avait une question à poser. Donc, je te remercie, je vais voir un petit peu plus haut s'il y avait eu d'autres messages. Eh bien, il n'y en avait pas d'autres. Alors, nous allons terminer la soirée sur ces petits mots. Eh bien, écoutez, on est le 22 décembre, on est en plein pendant les Saturnales. Techniquement, les Saturnales, ça se termine le 23 ou le 24. Et après, on enchaîne direct avec Noël, bien entendu. Alors, je vous souhaite évidemment une très joyeuse fête de Noël pour vous et pour vos proches. Je vous souhaite par la même occasion de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc, joyeux premier de l'an. Et puis, nous allons nous retrouver quand même avant 2026, puisque lundi de la semaine prochaine, vous aurez la sortie de l'Academia, de la dernière émission de l'Academia pour l'année 2025. Alors, pourquoi l'émission sort le lundi ? Eh bien, tout simplement parce que le 24 tombe un mercredi, donc ce n'est pas le meilleur jour pour sortir une vidéo, c'est pour ça que je l'ai sortie aujourd'hui. Et puis, c'est pareil pour la semaine d'après, le 31 décembre tombe un mercredi, tout le monde va faire la fête, je l'espère. Moins. Alors évidemment, moi je sors la vidéo le lundi, comme ça vous aurez un petit peu de temps pour la visionner avant vos célébrations personnelles. Donc l'émission de l'Academia de la semaine prochaine portera sur un évangile apocryphe, bien entendu. Eh bien, nous allons traiter l'évangile selon Marie-Madeleine. Après avoir traité de l'hypostase des archontes, l'apocryphon de Jean, l'évangile selon Thomas et l'évangile selon Philippe, eh bien, nous allons parler de l'évangile selon Marie-Madeleine. Et donc, c'est une Academia. L'émission complète sera accessible à tous les contributeurs sur Tipeee, donc tous ceux qui sont mécènes sur Tipeee, et à tous les souscripteurs sur YouTube au statut arcaniste. Donc, pour ceux qui veulent se procurer l'émission, eh bien, vous pouvez déjà devenir membre ou souscrire sur Tipeee et vous recevrez l'émission automatiquement lors de sa sortie lundi prochain. Encore une fois, les meilleures fêtes pour vous, un très joyeux Noël, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Des bisous.